Voici la revue de presse. Anthony Latier, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de la presse africaine ce matin, la libération de l'otage suisse enlevé au Nord Mali le 15 avril. Béatrice Tokli, c'est son nom, est arrivée hier à Ouagadougou au Burkina.
Oui, elle avait été enlevée à Tombouctou, une ville qu'elle avait refusé de quitter après sa chute aux mains du mouvement islamiste Ansar Eddine. La presse se réjouit ce matin de cette libération. L'Observateur note que Béatrice Tokli a eu plus de chance que d'autres otages des barbus du désert pour avoir passé seulement 10 jours en détention. Le journal burkinabé se félicite en tout cas que sa libération se soit faite grâce au Burkina Faso et à son président Blaise Compaoré. Il faut dire, précise le journal togolais Liberté, que depuis quelques années, le Burkina Faso joue un rôle très important dans la libération des otages détenus au Sahel. Liberté qui s'interroge sur les conditions de cette libération. Ansar Eddine, qui milite pour l'instauration de la charia au Mali, dit n'avoir pas posé de conditions, si ce n'est que les autorités suisses puissent être présentes. Pourquoi? Qu'avait-il à leur dire spécialement? Se demande le journal. Ansar Eddine a voulu donner l'impression d'une libération humanitaire, mais pour Liberté, un tel humanisme de la part de gens sans foi ni loi est surprenant. Le quotidien se demande donc s'il n'y a pas eu une remise de rançon. Difficile de croire qu'une telle libération n'ait rien rapporté ni aux preneurs d'otages, ni aux initiateurs de la libération, surtout lorsqu'on sait le but qu'ils poursuivent à travers les enlèvements opérés. Liberté évoque aussi une autre hypothèse, celle qu'à défaut de rançon, Ansar Eddine est tenté de démontrer sa disponibilité au dialogue dans la perspective de prochaines négociations en vue avec les nouvelles autorités maliennes.
Les nouvelles autorités maliennes, justement, elles se font toujours attendre. On ne connaît toujours pas la composition du gouvernement, un peu plus d'une semaine après la nomination du Premier ministre de transition.
Toujours pas de gouvernement, oui, mais déjà beaucoup de commentaires dans la presse. Pour Le Pays, par exemple, il faut craindre que cela reflète les divergences profondes qui divisent la classe politique malienne, avec d'un côté l'ex-junte et ses alliés et de l'autre les adversaires du putsch du 22 mars. L'Observateur dénonce de son côté la gloutonnerie du capitaine Sanogo qui a mené le coup d'État. Il semble en effet que les ministères de la Défense et de la Sécurité soient acquis aux putschistes, mais ces derniers convoitent d'autres ministères comme l'économie, les mines, la santé et les affaires étrangères. Une attitude qui va sans doute exacerber les tensions et qui confirme la thèse de bien d'observateurs selon lesquels le problème du Nord n'était qu'un alibi pour les militaires, pour faire main basse sur le pouvoir. Comment comprendre, sinon, que depuis, ces militaires n'aient jamais daigné donner la moindre réplique aux occupants du Nord, se demande l'Observateur. Après l'accord cadre signé avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, on croyait la junte repartie dans les casernes, mais il n'en est rien, regrette le journal. Visiblement, les Maliens doivent se rendre à l'évidence. Les militaires entendent être toujours les maîtres du théâtre d'ombre qui se joue à Bamako. Mako renchérit Le Pays, qui s'interroge de son côté déjà sur l'efficacité du futur gouvernement, alors que l'heure ne devrait pas être aux querelles de clochers, mais au rassemblement pour défendre la cause qui vaille, celle de la normalisation dans le Nord et ensuite de l'organisation d'un scrutin crédible. Bref, conclut Le Pays, les jeux d'intérêts partisans semblent prendre le pas sur l'union sacrée autour des défis auxquels les Maliens doivent se mobiliser. On en oublie presque le calvaire des populations du Nord, elles qui subissent nuit et jour le joug des obscurantistes islamistes et des séparatistes touaregs.
Comme en écho à ce qu'écrit Le Pays, Le Républicain évoque dans le détail le calvaire que vivent les populations du Nord.
Oui, le journal malien décrit la façon dont elles sont en train d'organiser la résistance contre le rigorisme islamiste qu'impose le mouvement Ansar Eddine. Le Républicain raconte qu'Idal, la semaine dernière, a donné le top chrono de la rebuffade. Les femmes de cette ville heureuse de la libération à Bamako de deux des leurs, faites prisonnières pour appartenance à la rébellion, s'étaient réunies pour fêter l'événement. Trop licencieux, a décidé l'administration d'Ansar Eddine, en décrétant purement et simplement l'annulation de la réjouissance. Les femmes ont refusé d'obtempérer. Énervés, les islamistes ont voulu user de la force, mais des jeunes de la ville sont venus à la rescousse des femmes, forçant les djihadistes à battre en retraite. Le Républicain poursuit et évoque la situation à Tombouctou. La ville aussi tente de marcher contre les moudjahidines qui restreignent la liberté de ses résidents. Plusieurs familles familles ont quitté la ville, mais celles qui sont restées portent le voile pour les femmes et se résignent à l'eau pour les hommes. Les imams de la ville, alertés par une population qui n'en peut plus, ont approché l'état-major d'Ansareddine pour qu'il assouplisse la loi. Pas question, leur a-t-on répondu. À cette exaspération de la population s'ajoute celle des rebelles du MNLA qui sont présents dans la ville. Ils ne supportent pas du tout les agissements d'Ansareddine. Selon le Républicain, tout le monde pense que la guerre entre les deux n'est qu'une question de temps.
Merci Anthony Latier, 8h19 à Paris.